y a d'autres personnes qui développent la maladie tôt, il y a d'autres qui développent la maladie tard. Donc, à part l'introduction des virus, il y a d'autres facteurs individuels. Parce qu'il y a des corps qui peuvent réagir par rapport au virus, résister, que les malades peuvent développer les signes en retard.
À quel moment une personne devrait-elle consulter un médecin ou aller dans un centre hospitalier?
Dans le contexte épidémique, les grands problèmes, ça se pose lorsqu'il y a le premier cas. Il est conseillé, lorsque vous avez la fièvre, parce que chez nous, on passe d'abord au paludisme, vous prenez les antipaludins. Et si vous constatez 2 à 3 jours, il n'y a pas de changement dans ce sens, la fièvre persiste et que la fatigue est intense, je pense qu'il faut aller à la formation sanitaire pour aller consulter. La logique est que lorsque quelqu'un est malade, en principe, doit aller au niveau de formation sanitaire. Mais en cas d'Ebola, ce qu'on conseille, il faut aller tôt.
Pourquoi est-il vraiment important que le malade aille le plus tôt possible au centre de santé?
Parce que vous allez tôt, on va détecter la maladie tôt et vous avez la chance de survivre. Et surtout qu'on a introduit quelques molécules pour la thérapeutique. Donc, quelqu'un qui est détecté 5 jours après les chiffres, dans cette 1 à 5 jours, donc il a beaucoup de chances de se soigner correctement et de guérir de cette maladie. Mais si on est vient tôt, lorsqu'il y a les signes qu'on appelle les signes de décompensation, ça devient tard. L'organisme aura des difficultés pour s'en sortir. Même les médicaments qu'on va donner, ça sera un peu difficile à ce que ça puisse arriver à guérir les malades.
Quels sont les modes de contamination ou de transmission d'Ebola? Comment les gens sont-ils infectés par le virus Ebola?
Bon, généralement, on se contamine à partir de tout ce qui est comme fluide corporel qui peut toucher. Enfin, tout ce que nous avons comme fluide corporel est bourré de virus lorsque quelqu'un est malade. En commençant par les sueurs, quelqu'un qui est en train de transpirer, dans les sueurs, il y a le virus. Un malade qui vomit, dans le vomi, il y a des virus. Les selles des malades, tout ce qu'il a sué, c'est ce qu'on dit lorsque quelqu'un est à contact avec les malades, il y a risque à ce qu'il puisse se contaminer. Donc voilà les voies classiques de contamination, c'est par contact direct, à contact avec les fluides. Si par hasard, vous prenez le sang, on a prélevé le sang chez quelqu'un qui a maladie à virus Ebola et vous transfile. Donc je pense que là, les processus vont évoluer rapidement et quelqu'un va développer la maladie rapidement. Donc en résumé, on se contamine par le sang, on se contamine à partir de tout ce que nous avons comme fluide corporel, que ce soit le sueur, que ce soit l'urine, que ce soit tout, lorsque le malade est actif, c'est à partir de cela que les gens se contaminent facilement. Et c'est pourquoi on dit lorsque quelqu'un est malade, il faut prendre des précautions, il faut prendre les gants pour s'habiller et il faut utiliser les désinfectants pour détruire les virus lorsque vous êtes en train de manipuler les corps.
Vous avez expliqué que le virus Ebola se transmet d'humain à humain à travers les fluides, les liquides. Mais est-ce que cela nécessite que la peau soit déchirée ou bien on peut se contaminer rien qu'en manipulant les vêtements souillés ou du linge, du lit, des gants ou du matériel souillé?
Oui, ça peut suer si après avoir touché, rapidement vous ne vous lavez pas les mains. Parce qu'au niveau de l'organisme, il y a toujours des micro-traumatismes, on ne sait pas. Et les virus peuvent entrer facilement au niveau de la peau, au niveau des muqueuses, ainsi de suite. Et même au niveau de l'œil, de la muqueuse et de l'œil, lorsque la sécrétion, lorsque vous êtes en train de manipuler, ça entre par la muqueuse. Donc, ça peut entrer par la peau, ça par la muqueuse. C'est pourquoi on demande toujours, lorsque vous êtes en train de tester Ebola, les patients, ils sont habillés même, ils protègent l'œil. Donc, les virus, à partir des sécrétions des malades, des fluides des malades, il peut entrer par des muqueuses.
Le virus Ebola peut-il être transmis par voie sexuelle?
S'il y a un homme déclaré guéri ou de tout cela, on a mis en évidence aussi qu'il y a possibilité qu'on puisse transmettre la maladie par voie sexuelle. Pendant cette épidémie, on a identifié des cas de transmission sexuelle aussi. C'est possible lorsqu'on fait des rapports sexuels non protégés par quelqu'un qui a la maladie ou bien celui qui est convalescent, dont dans l'esperme il garde encore le virus, il peut contaminer une femme facilement.
Une personne qui a été guérie d'Ebola doit-elle vivre dans l'abstinence sexuelle?
On a fait l'évaluation d'ailleurs chez nous en République démocratique du Congo, on a mis ce programme de suivi de contact. Et nous avons été éclairés par l'épidémie qui s'est passée en Afrique de l'Ouest. On a constaté qu'après la guérison clinique et les soins, les virus encore peuvent rester au niveau des liquides séminaux de l'homme. Et à partir de là, il peut contaminer une femme. Et c'est pourquoi il y a toujours l'analyse qu'on fait. Pour ce malade homme, on fait l'analyse des liquides séminales. Parfois, ça dépend. Ça peut être 2 fois par mois ou bien 1 fois par mois pour suivre s'il est devenu stérile, c'est-à-dire au niveau des liquides séminales, il n'y a pas de virus. Mais ADR, en sortant du CT, s'il était malade, le cas est suivi et on les conseille d'utiliser les préservatifs s'il ne peut pas s'abstenir pour éviter à ce qu'on ne puisse pas contaminer. Donc, il y a des conseils et puis on remet un paquet de préservatifs et des examens périodiques pour suivre jusqu'au moment où il sera déclaré au niveau des spermes, les spermes stériles sans microbes. C'est à ce moment-là qu'au PDV suivi, on peut déclarer qu'il est guéri complètement et il n'est plus dangereux.
Est-ce qu'un malade qui ne fait pas encore la maladie ou bien un malade qui n'a pas encore développé des signes d'Ebola peut transmettre cette maladie à quelqu'un?
En principe, non. On transmet la maladie lorsqu'on commence à faire la fièvre. C'est à ce moment-là qu'on devrait contagier. Pendant la période que la maladie est en train de se développer, s'il n'a pas encore développé la maladie, il ne peut pas contaminer quelqu'un.
Quelles sont les personnes les plus susceptibles d'être contaminées par le virus Ebola?
Les personnes d'abord les plus susceptibles, comme on le dit, ce sont les proches des malades. Et les plus exposés, comme on dit, lorsque les débuts de l'épidémie, comme vous le savez, il y a d'abord les agriculteurs, les chasseurs. C'est la première catégorie de personnes qui sont exposées parce que le virus, parfois, entre par cette catégorie de personnes, il va en forêt, il trouve un animal, il prend l'animal, il l'amène, et cet animal est infecté, il le contamine. Ou bien un chasseur peut aller et il tire, et il ne sait pas si peut-être l'animal était malade, c'est pourquoi il n'a pas fui, il tire, quoi, voilà, il a attrapé l'animal, il l'amène à la maison, se contamine. Voilà la première catégorie de personnes qui sont exposées à la maladie.
En dehors des agriculteurs et des chasseurs, quelles sont les autres catégories de personnes qui sont les plus exposées au virus Ebola?
Alors, deuxième catégorie, lorsque les gens commencent à faire la maladie, généralement, ces gens vont au niveau des centres de santé, au niveau de l'hôpital. Lorsque, au niveau de l'hôpital, les infirmiers ne sont pas protégés, ils n'appliquent pas les principes de la prévention contre de l'infection, voilà, ils peuvent se contaminer. Et c'est pourquoi vous allez constater au début de l'épidémie, les gens qui sont plus touchés, ce sont les personnels de santé. À côté du personnel de santé, ce sont les praticiens, les pasteurs qui imposent la main. Et après, maintenant, la contamination, c'est autour des personnes qui sont tout autour des malades, qui sont vraiment exposé à faire la maladie. Les gens, lorsque les malades meurent, peuvent manipuler le corps. Les gens qui soignent les malades à la maison, voilà les groupes de personnes qui sont exposées à faire la maladie.
Quand quelqu'un pratique l'automédication sans savoir qu'il atteint d'Ebola, quel risque ses proches ou ses amis courent-ils?
Exposé selon l'analyse qu'on a fait sur le cas, c'est l'anthropologie. Lorsque quelqu'un commence la maladie chez nous, il fait d'abord l'automédication. Lui-même va acheter le médicament parce qu'on passe généralement au paludisme. On prend les antipaludistes, ça ne change pas. On tombe malade et on va consulter au niveau des formations sanitaires. Voilà, 4 à 5 jours, on commence à infecter le personnel médical si on n'a pas. Et au moment où on infecte le personnel médical, si la maladie n'est pas encore grave, vous rentrez à la maison. Ce sont les membres de famille qui vous touchent, qui vous soignent. S'il n'a pas le temps d'aller au centre de santé, il est malade, il peut rester à la maison. Ce sont les proches qui manipulent. Au moment où il est malade, il infecte les gens.
Effectivement, on a vu qu'il y a beaucoup de membres de la famille qui ont été infectés par un seul membre, et notamment à cause des rites d'inhumation.
Et lorsqu'il meurt, comme nous les Africains, donc vous devez faire des cérémonies, il y a les oncles qui vont venir, tout le monde va toucher, pour montrer vraiment qu'on aimait son cousin, on aimait son papa, on aimait son oncle, donc on les touche. Et là aussi, les gens se contaminent. Les gens qui vont laver les corps, ils se contaminent. Et même au moment où on va aller à l'enterrement, les gens qui mourront pour la dernière fois toucher les cadavres, voilà comment les gens se contaminent. Donc, les gens commencent à se contaminer au moment où il est malade, et les gens se contaminent au moment où le malade est décédé. Et comme vous le savez, au moment où le malade est décédé, il a une charge virale très, très élevée, donc il est bourré de virus. Et c'est à ce moment optimal-là qu'il contamine beaucoup de gens.
Vous savez qu'en Afrique, l'enterrement est quelque chose de très important. Alors, comment procéder à l'enterrement dans la dignité d'un patient décédé des suites d'une maladie à virus Ebola?
Alors, au moment où on a l'enterrement, même c'est qu'il y a des messages qu'on dit à la population. D'abord, lorsqu'il y a quelqu'un qui est décédé avec les signes un peu évocateurs, la première des choses, on demande à la population de ne pas toucher le corps. Les membres des familles qui viennent de loin, il ne faut pas toucher le corps. Et il faut confier à l'équipe, parce que nous avons formé des équipes, qu'on appelle l'équipe qui s'occupe de l'enterrement d'une sécurité, qui vont venir désinfecter, préparer le corps et aussi assurer ce qu'on appelle l'enterrement sécurisé, tout en tenant compte des us et coutumes. C'est pourquoi on parle aussi de l'enterrement digne. Donc c'est un enterrement qui est à la fois digne et sécurisé.
Pourquoi appelez-vous ça un enterrement digne et sécurisé?
Digne parce qu'on doit respecter le corps. en tenant compte des transitions de juste côté. Sécuriser, c'est un enterrement pour éviter à ce que les gens ne puissent pas se contaminer autour du corps. Normalement, on s'organise à ce qu'on puisse organiser l'enterrement ensemble avec les membres de famille, sans que les gens ne puissent toucher. Et c'est cette équipe-là qui fait l'enterrement à la présence des membres de famille. Et le processus commence depuis qu'on va préparer le corps jusqu'à l'enterrement. C'est cette équipe-là qui s'occupe de gestion des cadavres jusqu'à l'enterrement.
Concernant le diagnostic, est-ce que les familles peuvent faire leur propre diagnostic à la maison ou elles doivent nécessairement aller voir un médecin dans un centre indiqué?
On peut suspecter quelqu'un qui a la maladie. Comme on le dit au niveau communautaire, on donne ce qu'on appelle la définition des cas. La définition, c'est un ensemble de signes qu'on dit, voilà, si vous voyez à ce moment-ci quelqu'un qui fait la fièvre, qui vomit, qui fait la diarrhée, qui fait des maux de tête, donc il faut le suspecter comme tel, comme maladie à virus Ebola, et vous devez alerter l'équipe médicale. C'est à ce moment-là que l'équipe médicale va venir. L'équipe médicale va aussi poser beaucoup de questions. Les questions par rapport au lien épidémiologique, les questions par rapport aux symptômes pour qu'ils puissent les considérer alors à ce moment-là comme un cas suspect. Lorsqu'il est validé comme cas suspect, il doit l'amener dans une structure sécurisée où on doit faire les prélèvements. Généralement, on l'amène au centre de traitement Ebola où on fait les prélèvements. Si on fait les prélèvements, premier prélèvement, il est négatif, on les garde encore dans les cas de suspect. On fait le deuxième prélèvement. Si on envoie les échantillons au niveau du laboratoire, on dit que le virus est présent. À ce moment-là, il est considéré comme un cas positif et il est alors hospitalisé au niveau de CT. Donc, les diagnostics, ça se fait à partir des appareils un peu sophistiqués, comme on dit.
Les analyses pour détecter le virus Ebola peuvent-elles se faire dans n'importe quel laboratoire?
En principe, le virus ne doit pas être analysé à n'importe quel laboratoire. Il y a les laboratoires, comme on dit, de P3, parce qu'il s'agit des analyses un peu sophistiquées qu'on appelle les PCR, qui arrivent à mettre en évidence le virus. Mais avant, il y a moyen de faire ce qu'on appelle les examens des anticorps pour mettre en évidence. Mais au niveau familial, au niveau de quelques formations sanitaires, il est impossible de faire les diagnostics de confirmation de maladies à virus Ebola. Les diagnostics de maladies à virus Ebola, ça se fait à partir des laboratoires. Et ici, maintenant, nous utilisons les laboratoires qu'on appelle GeneXpert pour arriver à faire les examens biologiques pour mettre en évidence le fragment de virus.
Vous avez parlé de centres urbains de traitement Ebola. Est-ce qu'il en existe assez pour les populations qui sont dans des zones à risque, en RDC précisément?
En RDC, on ne peut pas ouvrir les centres de traitement Ebola un peu partout parce que ça coûte trop cher. Les derniers centres Ebola qui sont mis en République démocratique du Congo, on appelle les centres de traitement Ebola normés, qui est nos responsables de conditions. Parfois, on utilise ce qu'on appelle le bile, c'est comme des chambres importées. Et vous savez, une bile coûte autour de 15 000 euros. Alors, si vous recevez, vous savez, dans un CT, il y a 70 malades. Si chaque malade a une bile, vous voyez comment ça coûte. Sans tenir de personnel, de tout ce qui est logistique autour des prises en charge. Donc, ça coûte trop cher. Le centre de traitement Ebola est dédié là où il y a l'épidémie. Et on le met un peu partout, on met dans les centres où on peut trouver aussi des conditions favorables pour assurer un bon traitement et aussi la gestion environnementale. Parce que lorsque vous traitez le cas d'Ebola, il ne faut pas regarder seulement l'aspect prise en charge médicale, mais il faut protéger aussi l'environnement tout autour de vous pour qu'on ne puisse pas infecter l'environnement.
Nous avons un auditeur, Yama Monatsese Kassiamamik. Il l'appelle depuis Lubumbashi dans le Haut-Katanga en République démocratique du Congo. Il veut savoir quelle est l'origine de cette épidémie d'Ebola parce que lui, il a appris que ce virus a été apporté par des personnes mal intentionnées pour des fins politiciennes et économiques. Qu'en pensez-vous, docteur?
La première des choses, il faut signaler que Ebola, là, d'abord, c'est un nom congolais d'une rivière qui se trouve à l'Équateur. Et cette épidémie, c'est la 10e épidémie. Et avant, il y avait une autre épidémie, nous étions en Bandaka. Ce virus existe dans la forêt. Il circule, comme je vous ai dit, entre les souris, entre les primates à un certain moment. Donc ce n'est pas quelque chose que vous pouvez importer. C'est une maladie qui entre au niveau de la communauté. Ça sort des forêts, généralement par un animal mort, et ça commence petit à petit qui a évolué. Dire que c'est une maladie qui a été importée, je ne pense pas que cette maladie soit importée. C'est une maladie qui a évolué à Babri, à côté, a commencé à Mangina. Si vous regardez Mangina, à côté de Mangina, il y a une forte forêt, la grande forêt équatoriale qui commence là. Et c'est là où l'épidémie a commencé.
Docteur, une dernière question pour cette première tranche consacrée à Ebola. Quels conseils pouvez-vous donner sur les risques d'infection à des populations qui sont à risque?
Le premier conseil que l'on donne à la population, c'est d'abord suivre tout ce que les personnels médicaux sont tentés de livrer comme message, les messages par rapport à la maladie à virus Ebola. Ce message vise à dire, voilà, lorsque quelqu'un voulait suspecter de maladie à virus Ebola, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce message vise à ce qu'on puisse observer les mesures de l'hygiène, se laver les mains à chaque moment. Éviter de se saluer pendant l'épidémie. Éviter tous les comportements à risque. Vous ne devez pas utiliser des choses traumatisantes. Et à ne pas céder l'oreille à tout ce que les gens disent, Ebola n'existe pas, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de vaccin. Qui suivent tout ce que les personnels médicaux sont en train de dire, tout en essayant de garder les mesures de prévention de l'hygiène. Hygiène individuelle, hygiène collective, voilà ce qui peut nous protéger contre la maladie à virus Ebola.
Merci beaucoup, Dr. Aaron Haruna, d'avoir été notre invité.
Merci beaucoup, madame.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
C'était le docteur Aaron Haruna, directeur général de la Direction de surveillance épidémiologique en République démocratique du Congo. Il est aussi le coordonnateur national de la riposte à la maladie à virus Ebola. Vous allez maintenant suivre Carnet de santé avec Linor Moudou.
Cette semaine, dans Carnet de santé, la dépigmentation volontaire. Nous parlerons de cette pratique répandue qui peut avoir des conséquences désastreuses sur la santé. Et enfin, lorsqu'un aliment tombe par terre, y a-t-il contamination s'il est immédiatement ramassé? La réponse dans notre rubrique « Vrai ou faux ». C'est dans notre prochaine édition de Carnet de santé.
Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Avoir un teint plus clair, c'est le désir de beaucoup de personnes. Et pour cela, des femmes et des hommes ont recours à la dépigmentation volontaire, aussi appelée blanchiment de la peau. Phénomène très répandu, la dépigmentation est pratiquée en Afrique et à travers le monde. Mais selon les experts, cette pratique pose un véritable danger pour la santé, car les produits éclaircissants utilisés sont souvent de mauvaise qualité et contiennent des ingrédients qui peuvent être très nocifs. Les risques liés au blanchiment de la peau comprennent des infections cutanées, des problèmes de cicatrisation, mais aussi des risques accrus d'hypertension, de diabète et de complications neurologiques. Les pays d'Afrique de l'Est sont sur le point d'interdire les produits éclaircissants pour la peau contenant de l'hydroquinone, un agent médical lié à des problèmes de santé lorsqu'il est utilisé à forte concentration. L'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est a adopté récemment une résolution appelant à une interdiction régionale de la fabrication et de l'importation de produits contenant de l'hydroquinone. Pour nous éclaircir sur ce sujet, nous avons invité Nelly Ngassam, alias La Terma, pharmacienne et blogueuse à Paris. Madame Ngassam nous rejoint sur Skype depuis Paris. Merci et bienvenue dans Carnet de santé. Il y a alors différentes raisons pour lesquelles les femmes et les hommes se dépigmentent la peau. Madame Ngassam, en tant que pharmacienne et activiste, vous parlez à beaucoup de personnes. Qu'est-ce qu'elles vous disent concernant les raisons?
Bonjour et merci de m'avoir invitée. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est souvent des problèmes familiaux. C'est une femme qui est dans un foyer où le mari, il a une première épouse qui est très claire de peau et il veut à tout prix que sa deuxième épouse se dépigmente la peau. Ça peut être aussi parfois des conflits familiaux. C'est une femme qui est en divorce, qui a l'impression de ne pas être aimée par son entourage à cause de sa couleur de peau. Elle se dit que la solution, c'est la dépigmentation volontaire de la peau.
Mais vous l'avez clairement dit, il y a plusieurs raisons. Et nous avons vu dans le reportage que l'hydroquinone était un problème, mais il y a aussi beaucoup d'autres produits très dangereux qui sont utilisés pour la dépigmentation. Parlez-nous-en, s'il vous plaît.
Alors, les produits, vous avez l'hydroquinone. L'hydroquinone, c'est le produit phare.
Hein. Oui.
Vous avez des corticoïdes qui sont des médicaments, mais qui ont été détournés de leur usage parce que les effets secondaires des corticoïdes, c'est la dépigmentation, c'est-à-dire l'éclaircissement de la peau. Et vous avez aussi les sels de mercure. Ce sont les trois produits qui sont très utilisés et couramment utilisés dans les produits éclaircissants. Les trois ingrédients dans les produits éclaircissants.
Oui. Alors, comment est-ce que vous arrivez à convaincre ces personnes-là à arrêter, puisque vous avez posé des raisons qui sont assez particulières et personnelles? Comment vous arrivez à les convaincre?
Je ne sais pas si je peux appeler ça convaincre, parce que je ne suis pas là pour obliger. Je sensibilise au travers des témoignages, au travers des vidéos, au travers des publications. Et ce sont ces femmes qui me contactent. Moi, je ne vais pas vers elles. Certes, je vais vers elles au travers de toutes mes publications et ma manière de sensibiliser, mais ce sont plutôt ces femmes qui viennent vers moi. Et quand elles viennent vers moi, c'est parce qu'elles ont envie d'arrêter. Donc, toute personne qui me contacte, ça veut dire qu'elle a envie d'arrêter. C'est pas à moi de les convaincre, mais c'est plutôt elles qui viennent vers moi parce qu'elles ont vu mes vidéos, parce qu'elles ont envie d'arrêter, alors elles viennent vers moi. Mais moi, je ne vais pas les convaincre individuellement. Moi, je fais plutôt ça de manière globale, c'est-à-dire par mes méthodes de sensibilisation, les photos choc, les témoignages choc, je montre des produits, je montre des effets secondaires, etc., etc.
D'accord. Et alors, à nos téléspectateurs, vous avez été nombreux à réagir sur les réseaux sociaux au sujet de la dépigmentation. Nuhum Traoré écrit « Rien ne vaut le naturel avec des risques de diabète, HTA, cancer de la peau, etc. C'est juste un sentiment de complexe qui pousse certains hommes et femmes à se dépigmenter. » Et Madame Nelly, votre réaction sur le sujet, particulièrement concernant les problèmes médicaux.
Vous parlez des effets secondaires ?
Oui.
Les effets secondaires sont multiples. Vous avez des effets secondaires de l'ordre du visible. C'est-à-dire que vous avez des vergetures qui sont très apparentes au niveau des bras et ce sont des grosses vergetures, des grosses stries qui ne sont pas du tout esthétiques. Vous avez des cernes sur le contour des yeux. Vous avez un hirsutisme, c'est-à-dire des poils qui apparaissent un petit peu partout sous le menton. Vous avez une hypersudation, c'est-à-dire que toutes ces femmes qui utilisent des produits éclaircissants transpirent énormément. Vous avez des odeurs très fortes aussi, des odeurs corporelle très très forte. Et maintenant vous avez les effets secondaires de l'ordre de l'invisible, c'est l'hypertension artérielle, c'est le diabète, le cancer de la peau.
Ok. Nelly Ngassam, merci de nous avoir rejoints. Alias Laterma, c'est votre nom sur les réseaux sociaux. Je rappelle que vous êtes pharmacienne et blogueuse. Merci de nous avoir rejoints.
Je vous en prie. Merci à vous.
Vous connaissez sûrement la théorie selon laquelle tout aliment ramassé moins de 5 secondes après être tombé par terre n'a pas le temps d'être contaminé et peut être consommé sans danger. Des chercheurs américains de l'université Rutgers dans le New Jersey sont formels. La loi des 5 secondes n'est pas une réalité, affirme-t-il dans la revue Applied and Environmental Microbiology. D'après les chercheurs, l'aliment est contaminé quel que soit le temps qu'il passe au sol. Ce qui change, c'est la quantité de bactéries transférées. Certes, il y a des différences mineures en fonction de l'aliment et du temps de contact. Par exemple, le melon se contamine plus vite que le bonbon. Tout de suite, la rubrique MedActu. Selon les statistiques 2019 de l'Organisation mondiale de la santé, les femmes vivent plus longtemps que les hommes dans le monde entier, en particulier dans les pays riches. Mais l'écart d'espérance de vie entre les hommes et les femmes est le plus faible lorsque les femmes n'ont pas accès aux services de santé. Dans notre prochaine édition de Carnet de santé, nous parlerons de la maladie à virus Ebola. Si vous avez des questions ou pour toutes vos réactions, rejoignez-nous sur notre page Facebook VOA Afrique ainsi que sur notre site web voaafrique.com. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter @linormoudou. C'est la fin de cette édition de Carnet de santé. Merci de nous avoir suivis. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et à très bientôt.
Voici à la fin de Votre santé, votre avenir. Nous nous sommes entretenus avec le docteur Aaron Haruna, directeur général de la Direction de surveillance épidémiologique en RDC. Il est aussi le coordonnateur national de la riposte à la maladie à virus Ebola. Ensuite, Linor Moudou vous a présenté Carnet de santé. Ce magazine santé a été réalisé grâce au concours de Cheikh Thierro et de Dan Crafton qui étaient à la console. Nanit Talani était à la présentation. Continuez d'écouter VOA Afrique et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir. Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.